Bonjour.
Bonjour.
Alors, 9h30, c'est l'heure qu'on avait prévue pour démarrer cette nouvelle balade urbaine dans le cadre des comités techniques, donc des COTEC, du programme de recherche PLU patrimonial. Donc, il y en a qui le connaissent bien déjà parce que soit vous êtes membre de l'équipe de recherche, il faut les repérer pour ceux qui ne les connaissent pas, soit vous êtes justement des fidèles du COTEC, hein, donc ce dispositif qu'on a voulu dans le programme de recherche pour faire se rencontrer assez régulièrement donc les chercheurs du programme et puis les acteurs de l'urbanisme, de l'aménagement, du patrimoine. Donc on en a fait déjà plusieurs dans les villes qui sont nos ports d'attache, Lyon, Tours, Angers, mais on a la chance aujourd'hui d'être invité donc par une collectivité qui va se présenter donc après moi.
Moi je suis Benoît Couvreau, je représente momentanément et on va se présenter en fait au fil de la matinée le service du patrimoine culturel du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Je commence tout de suite par excuser Jérôme Brachet, ville de Saint-Ouen, pleine commune, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin. Hein, nous sommes donc là au cœur de la ville de Saint-Ouen. Pour la question des protections au titre du patrimoine dans le cadre du PLU communal de Saint-Ouen, donc moi je vous transmets en fait les propos échangés avec Jérôme Brachet qui ne peut donc pas être là ce matin mais qui devrait nous rejoindre cet après-midi. Donc on pourra réaborder avec lui cet après-midi, en tout cas je l'espère, ce que vous aurez vu ce matin. On a avec nous les quelques fiches par édifice de protection. Je peux d'ores et déjà vous les énumérer, la mairie bien sûr, l'édifice public qui est juste là avec le beau motif architectural, hein. L'immeuble en face de nous qui accueillait initialement la bibliothèque municipale et donc du logement social, et puis le centre administratif et social me semble-t-il, et également le groupe scolaire que nous avons derrière nous, que nous allons voir tout à l'heure. Donc voilà cet effet de concentration. Ce qu'il faut dire par rapport au plan local d'urbanisme de Saint-Ouen, c'est que la ville de Saint-Ouen s'est engagée au cours de ces quasiment 20 dernières années dans un partenariat étroit avec l'État, la DRAC Île-de-France, avec d'une part la ZPPUP des puces, hein, qui a été validée en 2001, et puis un engagement à partir de 2002-2003 dans un élargissement de la ZPPUP à l'ensemble de la commune. Donc un projet très ambitieux, accompagné donc par la DRAC Île-de-France, dont Sophie Gévakoff est la représentante aujourd'hui notamment. Ce processus a été forcément un peu long puisqu'il était ambitieux, hein, cet élargissement à l'ensemble de la commune, avec différentes phases. Une adaptation à la nouvelle législation, le passage aux AVAP, hein, qui a de fait changé le niveau de précision, hein, a complexifié, on va dire, le processus d'identification du patrimoine. L'engagement dans un volet patrimonial au titre du PLU s'est fait en relais, mais en second rang, avec progressivement l'idée que l'élargissement de la ZPPUP ne se ferait pas à l'ensemble du territoire communal, mais on va dire un peu en doigt de gant, tout autour de la place de la mairie, avec par ailleurs la persistance des périmètres autour, notamment de l'église de Saint-Ouen au nord. Enfin voilà. Donc les protections patrimoniales en dehors de la zone de la VAP devaient compenser justement le redécoupage partiel du territoire communal. Et puis les élections municipales ont modifié la majorité municipale et depuis la nouvelle équipe est en réflexion, mais très clairement, on a voilà, un petit souci technique, on va dire, hein, dans l'avancement de ce processus.
On en parlera plus loin que la mairie.
Voilà, ça, ça ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. En tout cas, bon, voilà, faut faire état malgré tout de cette situation. Du coup, un volet patrimonial qui, voyant les délais et autres prendre de l'importance, a malgré tout investi la zone centrale de la future AVAP, notamment cette place de la mairie. Mais voilà, on a quelque chose donc qui est assez contrasté et qui est encore en gestation. Et donc sur lequel on pourra revenir avec Jérôme Brachet cet après-midi. Mais voilà, c'est en même temps, quand on a fait la réunion préparatoire avec Sébastien et Mathieu, il y avait la volonté de parcourir deux communes et de voir des situations assez différentes. Et effectivement, là, c'est le cas. Tout ça doit être par ailleurs envisagé, bien évidemment, dans le cadre du territoire de pleine commune, du futur plan local d'urbanisme intercommunal et dans une inscription plus large au dispositif ville d'arrêt d'histoire pour dans lequel est entré le territoire de pleine commune il y a 2-3 ans maintenant. Donc voilà, toute une dynamique patrimoniale qui s'est enclenchée. Et c'était important de voir deux communes de façon assez complémentaire pour envisager les démarches engagées. Donc, juste deux mots, le collège que je vous signalais, et donc ce groupe scolaire ici, qui a fait l'objet d'une restauration récente et d'une grille que j'avais pas vue. Et puis vous signalez aussi la patinoire qui devait intégrer, qui faisait partie notamment des sites identifiés dans le cadre de la VAP et de la ZPPIP, patinoire de Paul Chemetov, dont le sort est a priori pas scellé, contrairement à un immeuble tour qui est en cours de grignotage et qui était également de Paul Chemetov et qu'il a défendu bec et ongles, mais sans succès. La patinoire de Saint-Ouen a beaucoup d'ennemis, mais une très grande utilité et parce qu'elle est, elle permet en fait à des équipes de rang régional de pratiquer le patinage artistique ou le hockey sur glace. Donc on a une utilité qui permet de la conserver.
C'est effectivement la deuxième qui reste sur le département de patinoire.
Hélène Carou, département de la Seine-Saint-Denis.
Donc c'est la deuxième qui reste sur le territoire de patinoire. Il y en a une autre à Neuilly-sur-Marne, donc c'est la seule évidemment plus accessible au métro. Qui est une situation un peu particulière puisque le terrain chez Metaf a dû la construire en hauteur puisqu'il a hérité d'un terrain délaissé par les ponts et chaussées. Donc il avait comme contrainte de laisser des voies passer dessous. Il devait aussi mettre un parking avec une entrée et une sortie, ce qui explique en fait que l'espace de patinage est placé en hauteur. Donc voilà, sa situation est là, entièrement métallique, béton. Donc c'est un bâtiment, on va dire, assez rare, assez exceptionnel, qui est en plein centre urbain, et effectivement, dont la réception est assez partagée à l'échelle de la ville et à l'échelle des bâtiments. C'est un bâtiment qui peut paraître un peu dur de prime abord, mais c'est aussi l'absence d'entretien depuis sa construction à la fin des années 80 qui explique aussi cette situation. Peut-être dans le cadre des Jeux Olympiques, elle fera peut-être l'objet comme un site d'entraînement. Donc la question se posera à ce moment-là d'une restauration, d'une conservation ou d'une reconversion.
Donc, très, très rapidement, on voit de ces petits ensembles les villas, les plaintes impasses qui ont été conservées de l'ancien tissu de Saint-Ouen dans ce secteur, évidemment. Alors, ils deviennent de plus en plus rares. On peut espérer qu'il en subsistera quelques-uns, parce que, vous avez bien vu, l'ensemble du secteur est en train de se densifier. Ça va encore être bien plus fort dans les années à venir. Donc, évidemment, ça pose la question de la réhabilitation, de la préservation de ces ensembles. Il y en a une quinzaine de mémoires aussi qui sont repris au titre du PLU. Et voilà, donc c'est un des exemples de cet ordre. C'est évidemment un bâti un petit peu divers. On n'est pas sur des villas parfaitement proportionnées, mais vraiment sur d'habitat ouvrier, mixte, un petit peu avec encore parfois d'anciennes fabriques, d'anciens éléments industriels de petite taille. Donc voilà, comment intégrer ça déjà dans le bâti existant et puis dans les règlements d'urbanisme, bien entendu, comment est-ce qu'on s'approprie ces ensembles un petit peu particuliers.
Donc là, c'est vraiment une identification de ces petites impasses qui ont donné lieu à une urbanisation fin 19e, début 20e, avec là typiquement voilà, du parpaing de mâche vert comme on en faisait spécialement ici, hein, avec les déchets de coque notamment. Mais voilà, du coup, il y a des niveaux d'appropriation très différents, mais pour une configuration urbaine identique, hein, ou assez comparable, avec en même temps des choses qui relèvent là, clairement de la reconstruction, puisque la ville de Saint-Ouen a été aussi en partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il y a des choses sur des périodes différentes également, mais ce sont toujours des ensembles bâtis cohérents, bien identifiés.
Mais relativement dispersé sur l'ensemble de la ville qui est assez vaste. Donc c'est comment insérer ces ensembles très particuliers dans un ensemble urbain qui est quand même assez...
Donc Antoine Furiot, je travaille aussi au département de la Seine-Saint-Denis au service du patrimoine culturel. Je suis chargé de mission sur le patrimoine industriel. Et le territoire du nord-est parisien a été fortement industrialisé dans son histoire. Le département s'est très tôt engagé dans un travail de repérage et d'inventaire de ce patrimoine qui est représentatif de l'identité du territoire. Et malgré une forte dynamique urbaine, un fort renouvellement, on a encore beaucoup de vestiges de ce patrimoine. Pleine commune est plutôt bien pourvue de manière générale. Saint-Ouen l'est évidemment. Et dans les ensembles protégés au titre du PLU sur Saint-Ouen, les ensembles industriels sont assez peu représentatifs de la densité présente sur le territoire. Néanmoins, on a certains objets, et parmi ceux-là, nous avons l'usine Bosch, qui est derrière nous, anciennement Lavalette. On est sur de la construction de matériel pour l'automobile, qui est récupéré par Bosch dans les années 60-66. Et c'est un site qui a été construit en plusieurs phases, fin des années 20 et reconstruction années 50. Lorsqu'on a commencé à travailler sur le site, on avait identifié plusieurs objets et seul un a été intégré dans le PLU, c'est celui que vous avez derrière, l'ancienne centrale thermique, ce bloc, qui n'est pas sans rappeler par ailleurs la centrale de l'hôpital Beaujon à Clichy, la Garenne. Et seul cet ensemble a été protégé alors qu'on a des éléments de qualité similaire, si ce n'est supérieure, de l'autre côté sur rue. Celui-ci a l'avantage d'un point de vue urbain d'être... en périphérie de la parcelle, donc il gêne pas trop. Il permet donc un renouvellement à l'intérieur de la parcelle, ce qui s'est d'ailleurs produit puisque Bosch s'est densifié et étoffé en accueillant un grand centre de formation très récemment, une construction neuve.
Ça représente combien de
en hectares fait, hein. On est à peu près, ouais, je pense qu'on est sur les 2 hectares, 1 hectare 5, 2. Et cette petite emprise fait 292 mètres carrés.
Protégé uniquement au titre du PLU, on est d'accord.
Protégé voilà. Uniquement au titre du PLU.
On n'est pas sur aussi un élément de ZPPAUP ou AVA, là c'est que le PLU.
Non, Benoît en a parlé ce matin sur les docks, la zone des docks, donc une zone de 100 hectares sur la ville de Saint-Ouen, qui représente je crois un tiers ou un quart du territoire. On avait une forte concentration de sites industriels. Et si mes souvenirs sont bons, la ZPPAUP ne pouvait s'étendre jusqu'à la zone des docks puisque
non,
c'était un
projet. Oui, ça n'a jamais été envisagé jusque-là.
C'était un projet urbain d'envergure. Je ne sais pas si ce matin vous l'avez longé ou si vous l'avez traversé, mais on est sur un des grands territoires en renouvellement urbain aujourd'hui, qui est un peu l'emblème du Saint-Ouen modernisé du XXIe siècle. Alors, ils ont conservé un élément industriel dans la zone des docks, qui est la halle Alstom, qui accueille aujourd'hui la manufacture du design. Mais une approche du patrimoine qui est assez singulière, puisque la halle, qui est intéressante de par son gabarit, sa volumétrie générale, a été tronçonnée pour accueillir d'autres fonctions. Néanmoins, on peut apprécier l'effort d'avoir conservé les ponts roulants, ces objets techniques qui souvent disparaissent dans le cadre de reconversion. Donc si vous avez l'occasion, je vous invite à traverser les docks. C'est d'un point de vue urbain, d'un point de vue de l'aménagement du territoire, du Grand Paris et des enjeux et de la problématique sur la préservation du patrimoine industriel, c'est un beau cas d'école. Voilà.
Et là, par exemple, alors sur cet objet-là, la fiche l'identifie donc rapport aux éléments que vous avez rappelés, et il y a il y a des prescriptions, pas. On en reparlera sûrement cet après-midi, mais
sur Saint-Ouen, on est uniquement sur une fiche qui localise, identifie, qui donne la parcelle au moins. Oui. Voilà. C'est un reste très très modeste, très sommaire.
Okay. Aucune fiche ne passe l'étape d'établir
des recommandations ou des prescriptions. Donc effectivement, c'est le contre-exemple de Saint-Denis où là, on a réellement pu apporter des éléments de recommandation et de prescription.
Alors,
c'est une protection PLU. Donc effectivement, par définition, la démolition au moins de cet objet-là est empêché, mais on arrive, nous, parfois, en tant que personne publique associée, on est associé à des modifications de PLU, où il peut y avoir des inscriptions. Et sur Saint-Ouen, on a déjà 2-3 cas de désinscriptions, notamment sur la zone des docks dont je vous parlais. On avait un petit ensemble pavillonnaire de logements de contremaître de l'usine électrique construite au début du XXe siècle. Deux pavillons avaient été inscrits au début du plan local d'urbanisme et ils en ont déprotégé un.
Après, c'est une procédure longue normalement. C'est parce que quand on réduit une protection, c'est plus une modification, c'est une procédure un peu plus longue.
Mais ça existe. Voilà.
Et
ça se fait.
Clairement, ça se fait sur le territoire de façon assez finalement discrète, avec peu de mobilisation.
Oui, parce que c'est une procédure en association.
Voilà.
Chose, on modifie des OAP, mais il faut une enquête publique pour enlever les
demander à madame.
Pardon. Il faut une enquête publique pour.
Oui, mais justement, il y a peu de gens qui se prononcent lors de cette enquête finalement sur ce territoire. Donc c'est pour ça que quand je dis discrète, c'est oui, ça passe un peu inaperçu parce que ça intéresse finalement un nombre restreint de voilà, il y a peu de réactions en général à la suppression de certains bâtiments. Sur d'autres territoires, on le voit en région parisienne, mais typiquement, il y a des secteurs où ça passe complètement inaperçu. On l'a sur différentes communes du secteur et ça passe en général sans faire trop de.
La protection des PLU à l'égard des habitants, ça reste comme aussi quelque chose qui n'est pas forcément approprié, compris.
Voilà.
Quels enjeux ça suppose. Donc à un moment on s'alarme, il y a des comités qui s'alarment, mais c'est toujours parfois un peu tard. Donc il y a aussi tout un travail à faire pour mieux expliquer aux habitants qu'est-ce qu'un PLU, qu'est-ce qu'une protection à ce titre et quelles conséquences en fait. Donc il y a aussi ça viendra. Mais...
Sur certains territoires, on a des associations très, très actives. Je pense au Pré Saint-Gervais où il y a eu une action d'une association qui a permis de sauver un site industriel. Sur les docks, je sais qu'il y a une association également très active, mais plutôt environnementaliste que patrimoniale. Donc du coup, les retombées sur la préservation du patrimoine ont été un peu légères. Mais effectivement, lorsqu'il y a des essais d'organisation, de réunions, de présentations, on s'aperçoit que la mobilisation est assez réduite.
Mais souvent sur des questions environnementales, ce que je vois au Lila, c'est plutôt le parc. En cas d'enquête publique, c'est le parc qui a fait réagir parce que la ville souhaitait le densifier. Donc c'était plutôt contre une densification d'un espace vert que pour, alors qu'il reste un petit bâtiment industriel assez simple qui est là, mais ça c'est un peu passé inaperçu. En privilégiant l'absence ou le refus de densification.
C'est tout l'enjeu aussi du partage de ce qui fait patrimoine, parce qu'effectivement, on parlait par exemple de la patinoire tout en avançant tout à l'heure, même s'il n'y a pas que le rapport esthétique par exemple et que le côté vieille pierre qui justifie pour la population de faire patrimoine, je pense qu'il y a pas mal d'objets patrimoniaux qui à la fois font partie du quotidien des gens d'une part et puis n'apparaissent pas forcément à mon avis comme des éléments de patrimoine en tant que tel. Et l'absence de mobilisation, elle peut s'expliquer aussi par le fait que concrètement les gens seraient très surpris qu'on leur dise mais ça c'est un élément de patrimoine. Enfin je pense que les associations c'est autre chose, hein, mais quand on est dans de la mobilisation citoyenne un peu spontanée, c'est tout l'enjeu de dire que ça en fait partie, que la patinoire qu'on a vue tout à l'heure en fait partie, parce que la signature de l'architecte, pour beaucoup, ça veut rien dire. Enfin,
ce travail de sensibilisation, de valorisation, c'est un volet qu'on développe parallèlement aux travaux dans le cadre des documents d'urbanisme, avec Maïgali et Malouchi. Ici, il y a tout un travail de restitution via des brochures, des petites brochures pédagogiques qu'on distribue gratuitement. Il y a des travaux plus ludique avec les parcours et autres qui ont pour vocation de sensibiliser les publics à la dimension patrimoniale et à la valeur du patrimoine qui sort un peu des vieilles pierres.
Donc la rue Saurin, elle a la caractéristique d'être créée en fait par une société coopérative d'habitation à bon marché qui est créée en 1894, et cette rue est créée sans doute en 98 à peu près, et c'est donc une société coopérative ouvrière tout à fait remarquable qui a beaucoup œuvré dans Saint-Denis, mais pas exclusivement. Elle a également bâti à l'Île-Saint-Denis, à Épinay, et a régulièrement en périphérie de la commune de Saint-Denis ouvert des rues et créé une urbanisation sur laquelle s'est rajoutée cette urbanisation plus récente de pavillon dans les années 20, voilà. Donc je te passe la parole, Hélène.
Ce qui était intéressant dans cette rue, c'est qu'on est sur deux types d'habitats individuels, c'est-à-dire donc ces maisons en bande, et quelques années après, il y a une même propriétaire, alors les archives ont un peu manqué, mais néanmoins c'est recoupé, une même propriétaire achète le reste des parcelles en fait, de cette rue, qui sont habitées avec Pontacrel ensemble, et décide de faire un ensemble de maisons, qui sont ces six maisons qui sont ici, en prenant quelque part le modèle du point du feu, mais en restant sur la maison isolée sur sa parcelle. Donc elle fait appel à un entrepreneur qui est dionysien, donc il reste encore des éléments de la plaque, donc c'est aussi l'histoire de ces constructeurs à l'échelle de la ville qu'on a réussi à identifier. Et donc elle crée cet ensemble de ces petites maisons. Alors aujourd'hui il y a des modifications qui ont été apportées sur certaines, mais quand on prend le recul, on voit néanmoins qu'il y a eu une recherche, donc c'était probablement des maisons à la location dans un secteur assez industrialisé avec une population on va dire plus modeste qui habitait. Donc quand on recule, on voit qu'on a deux maisons qui sont identiques de part et d'autre, les deux extrémités, deux autres maisons un peu différentes, et très certainement les deux maisons au centre étaient des maisons jumelles. Celle de droite a été surélevée, modifiée. Donc on a fait une fiche en fait sur cet ensemble parce qu'il est intéressant en plus à l'échelle de l'histoire de cette rue, même si on est sur quelque chose de modeste. La cohérence des clôtures aussi permet de lire aujourd'hui encore que ça a constitué un ensemble cohérent. Donc là, ces deux exemples par exemple que je vais vous montrer, enfin de fiches qu'on a fait sur ces deux ensembles-là. Et pour permettre, alors les maisons ont été protégées, mais Véronique Taré pourra nous le dire. On n'a pas encore expliqué qu'on a mis, alors on est arrivé à Saint-Denis, les fiches qu'on a faites, on a mis des niveaux, parce qu'on pensait, voilà, les niveaux 1 en trois catégories, les niveaux 1 correspondant à des bâtiments qui n'avaient pas été modifiés, ou supposés pas modifiés, le niveau 2 c'était des maisons, enfin des habitations ou des constructions qui avaient déjà été modifiées, et le niveau 3 c'est des bâtiments dont on estimait qu'ils peuvent être démolis, mais néanmoins, c'est souvent le cas des immeubles, au moment de leur reconstruction, on réfléchit ça dans un ensemble cohérent, urbain, et donc la reconstruction soit aussi respectueuse de l'ensemble qui est autour. Donc par exemple, pour ces maisons, les cinq maisons ont été protégées en niveau 1, évidemment, et celle qui a été modifiée a été protégée au niveau 2. Juste avant Véronique vous laisser la parole, parallèlement, l'architecte du patrimoine qui travaillait avec nous à cette époque-là a réalisé un cahier de recommandations architecturales et urbaines puisque des typologies qu'on trouve ici, on peut en trouver ailleurs, notamment à Saint-Denis, mais dans d'autres villes, et qui donnent des exemples de recommandations sur ces essences, sur les céramiques, sur les briques, enfin sur les ravalements possibles. Donc c'est un outil qui accompagne complètement les fiches et qui permettent aussi, de, pour les services instructeurs et pour les habitants, d'avoir des éléments sur, sur la restauration, conservation de, leur, de, leur, de leurs habitations notamment.
Sur ces trues, on a été confronté à des demandes de permis de construire pour des extensions sur rue. Alors sur les maisons qui sont peut-être plus au bout, on va aller les voir.
Donc, des maisons qui vivent en même temps, c'est pas gênant.
Donc sur ces deux maisons là qui sont là, on a eu des demandes de permis de construire. La particularité, c'est qu'à l'époque, on était en poste, on était en cours d'élaboration du PLU. L'étude sur le patrimoine et donc les fiches étaient en cours de réalisation et n'étaient pas encore opposables. Elles avaient été produites mais non opposables puisqu'elles ont été annexées au PLU lorsque le PLU est rentré en... a été approuvé. Donc là, sur ces deux maisons, nous avons déposé des permis de construire pour faire des surélévations, pour créer une chambre pour... c'était dans le cadre d'un parcours familial, il fallait une chambre supplémentaire à chacune des deux maisons. Ils avaient pris le même architecte pour faire une surélévation à peu près cohérente. On a... au regard de l'affiche qui n'était pas opposable, on s'est opposé à ces permis de construire, on les a refusés en argumentant sur l'article 11 du POS, donc sur l'insertion, au titre de l'insertion urbaine. On a reçu les deux familles, on a retravaillé avec eux, ça a été un petit peu compliqué, on leur a expliqué que leur maison avait une valeur patrimoniale importante, on leur a expliqué à l'appui de l'affiche qu'on leur a fournie ils étaient dans un ensemble cohérent et qu'on ne pouvait pas à ce titre dénaturer la rue en faisant des surélévations. On a retravaillé avec eux, avec leur architecte, et on est tombé d'accord pour faire en fait une extension par l'arrière, qui ne se voit pas de la rue, qui se voit d'un square, du square qui est derrière. Et au bout du compte, on a accepté leur projet parce que ça nous passait cohérent et ça ne dénaturait pas la rue et ça ne dénaturait pas le bâti. Alors on a fait tout un travail d'explication avec, avec les propriétaires. Hein. Ça a été un petit peu compliqué quand même parce que dans un premier temps, ils n'ont quand même pas bien réagi qu'on leur refuse de leur permis de construire. Et pourquoi, pourquoi ? On a, parce que nos arrêtés de refus étaient un petit peu, enfin je veux dire, faire un refus de permis de construire que sur l'insertion urbaine, on rame un peu quand même pour argumenter. Et donc on a quand même longuement discuté avec eux et au bout de quelques mois on s'est mis d'accord et le résultat c'est une extension par l'arrière, on peut passer la voir, c'est juste derrière. Le bilan de ces deux familles c'est qu'ils bah, se sont ravis de ce qui s'est passé, ils sont ravis qu'on ait refusé le permis et pas avoir laissé dénaturer le bien. Ils sont ravis de leur extension par l'arrière et ils sont tellement ravis que lors de l'élaboration de l'approbation du PLU, l'un d'entre eux a été interviewé par le journal de Saint-Denis pour dire ce qu'avait apporté l'étude patrimoine, les fiches, etc. Donc il a fait un peu la promotion de tout le volet patrimonial du PLU.
Vous ne l'avez pas payé, vous l'avez pas payé.
Ah non. On n'a pas de sous à Saint-Denis, vous savez, on est pauvres. Voilà, donc c'est un exemple en tout cas de comment travailler avec les habitants pour d'une part leur faire leur dire bah non, vous avez un bien d'exception, ne l'abîmez pas, c'est pour vous, c'est votre patrimoine. Enfin, ne pas l'abîmer, ça ne peut que lui donner de la valeur. Donc ça, ils entendent. Quand on parle patrimoine et valorisation de leur patrimoine, ça, ils entendent un petit peu. Et aussi, bah, retravailler avec l'archi, avec eux, pour dire, bah, on comprend très bien qu'il y a un besoin d'évolution familiale. C'est légitime, je veux dire, on ne va pas s'opposer à ce qu'on fait. Enfin, les maisons sont toutes petites, hein. On est sur 50 mètres carrés, quoi. Donc c'est tout à fait légitime, mais trouver la solution, comment adapter la chose.
Du coup, ça veut dire qu'ils ont pris sur leur terrain derrière.
Non, je vais vous montrer. Voilà, ils ont fait une surélévation sans prendre sur le terrain.
D'accord, parce qu'effectivement, empêcher la surélévation, donc...
Ils ont surélevé par l'arrière, sans faire d'emprise supplémentaire sur le terrain. Les terrains sont minuscules, les parcelles sont minuscules. Hein. Donc ils ont surélevé par l'arrière, c'est-à-dire qu'ils ont changé la pente du toit à l'arrière. Ils ont fait ça. Et ils n'ont pas pris d'emprise.
C'est un peu la même problématique que Bordeaux a rencontré avec les échoppes, où effectivement il y avait à chaque fois la volonté de garder vraiment les alignements et les inclinaisons de toiture. Et effectivement ça conduit à des formes architecturales qu'on peut trouver un peu bizarres, mais qui consistent vraiment à faire une surélévation par l'arrière qui ne se voit pas de la rue.
donc qui suit en partie la pente de toiture, mais qui ne, malgré tout, d'un point de vue visuel,
là,
garde
on ne voit pas qu'il y a une
l'ensemble.
On ne voit pas, on voit pas. On voit qu'il y a aujourd'hui, on refuserait le permis de construire sur des motifs différents, enfin, en incluant effectivement avec la fiche patrimoine. Mais ce serait plus facile effectivement d'argumenter, mais je veux dire, la fiche existait déjà telle quelle, on l'a gardée telle quelle dans le PLU. On a gardé une grande partie des fiches qui avaient été proposées, on en a gardé l'immense majorité, on a modifié quelques niveaux de protection pour des raisons pratiques, pour discuter effectivement des niveaux qui étaient trop élevés de protection, qui ne permettaient pas effectivement des évolutions d'équipements publics ou d'équipements industriels. Mais sur les maisons, d'une façon générale, les maisons individuelles et les ensembles, un ensemble comme celui-ci, on a gardé strictement la fiche telle qu'elle avait été conçue par le département. Donc voilà.
Celle qu'on vous a fait tourner en fait.
Il y en a une qui circule, voilà. Et puis il y avait des recommandations spécifiques.
Alors les maisons, parce que les maisons du coin du feu, on les retrouve un peu partout sur le domaine, sur la ville de Saint-Denis. Mmh. On en trouve des petits îlots un petit peu dans le nord de Saint-Denis.
À l'est,
vers dans le centre.
Pleyel aussi, il y a le docteur Poiré.
C'est une fiche. Lorsqu'on travaille, on a très peu de projets en fait sur les maisons du coin du feu. Hein. On a souvent effectivement des petites demandes d'extension parce que pareil, ça reste familial. Mais ça nous sert aussi effectivement à réexpliquer aux pétitionnaires ce qu'on peut faire, pas faire et pourquoi, en quoi sa maison a un intérêt.
Et vous tolérez le plastique.
Non, on ne tolère pas le PVC de façon générale, mais enfin là, on l'a toléré.
Ouais, dans le cadre d'une négociation globale,
ce que l'on fait aujourd'hui, lorsqu'on est, on a une fiche patrimoine, on est en dehors d'un secteur de protection ABF, on sollicite systématiquement l'ABF pour, en plus de la fiche patrimoine, avoir l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Même si on est en dehors de leur périmètre. Et l'architecte des bâtiments de France nous donne des prescriptions, des recommandations, enfin des prescriptions également sur des biens en dehors de son périmètre de protection.
Au vu de l'expérience que vous venez de nous présenter, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Une fiche annexée au règlement du PLU qui donne tous les éléments techniques aussi justifiant l'intérêt et donc les travaux à faire, ou le dialogue, puisque là finalement ce que vous avez raconté c'est que vous étiez sur des fiches qui étaient non opposables, mais l'important ça avait été de discuter avec les pétitionnaires, avec l'architecte.
C'est le dialogue, je veux dire la fiche aujourd'hui elle est opposable, donc on a une justification supplémentaire. Mais le dialogue reste primordial, puisque quand on refuse un permis de construire sur une maison parce qu'effectivement il y a une fiche et ça ne correspond pas, on reçoit le pétitionnaire, on lui réexplique, on essaye de voir comment on peut trouver une autre solution. On est dans l'accompagnement, on est dans le dialogue, je veux dire, on comprend. On comprend aisément qu'il y ait des besoins de vie et on est toujours dans le dialogue. On peut dans un premier temps refuser un permis de construire ou une déclaration préalable et dans le deuxième temps on prend rendez-vous, on discute, on l'affiche, on la relit ensemble, on explique et on essaye de chercher ensemble qu'est-ce qui peut être fait en restant, tout en étant réglementaire. Hein, je veux dire, si on est un peu des proutes du règlement quand même. À l'urbain opérationnel, donc on essaye de trouver comment on peut faire. Mais on reste dans le dialogue, je veux dire, c'est jamais la porte fermée. Non, il y a une fiche, c'est non, au revoir. Enfin, ça, on ne fait pas.
Tu dis, je serais tenté de croire que l'un fonctionne avec l'autre, en fait, sans fiche sur laquelle s'appuyer, avec un travail conséquent derrière, des éléments de recommandation. C'est effectivement plus facile pour commencer nous, un dialogue.
Nous, ces fiches, elles nous servent parce que nous, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des professionnels du patrimoine, on est des techniciens de la règle. Ces documents, les fiches, nous servent de base pour réexpliquer, négocier, convaincre. Mais voilà.
Une des questions qu'on se pose, nous, dans notre programme de recherche, c'est de savoir où on la met, cette fiche, et de quoi on la remplit. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un outil, enfin quand je dis juste, hein, c'est beaucoup, un outil de connaissance et donc d'accompagnement des projets qui vont être présentés, ou est-ce que ça doit être effectivement un outil juridique de prescription qui n'interdit pas d'expliquer la prescription, bien sûr.
Ça l'est aussi, parce que lorsqu'on parle aussi, on voulait nous démolir la maison, une maison ici, on dirait non. Ça serait un non et point final. Enfin, je veux dire, y a, après, quel est le projet? Enfin, on essaie d'équilibrer. Je veux dire, non, vous ne démolirez pas une maison du feu. Vous n'y pensez même pas. Excusez-moi. Les fiches d'ensemble, d'une façon générale, reprennent donc sur un grand linéaire de parcelles. Et nous, nos autorisations d'urbanisme, on les a à la parcelle. Donc il nous est toujours très difficile d'appliquer à la parcelle des recommandations et des prescriptions qui sont sur un ensemble. Bon, le canal c'est un peu particulier, mais on a surtout ceci là sur les fiches d'ensemble qui sont en centre-ville, donc sur la rue de la République, qui sont les deux grandes rues structurantes du centre-ville, la rue Gabriel-Péri et la rue de la République, qui sont les deux grandes rues commerçantes de la ville, centre-ville. Et là on a vraiment un souci pour utiliser, je dirais, dans l'utilisation de la fiche, parce qu'on est sur nous de la parcelle, on travaille à la parcelle, on ne travaille pas sur un ensemble.
Alors, ce qui est intéressant à la fiche canal et à la fois complexe, c'est qu'on avait différentes grandes thématiques. On avait à la fois l'ouvrage d'art en tant que tel, on avait les problématiques des berges et des perspectives urbaines, donc une approche plus paysagère. On avait le bâti fluvial, les maisons d'éclusiers et tout ce qui, jalonne le parcours. Et on avait les installations qui sont des deux côtés, enfin les installations, les constructions qui sont des deux côtés du canal, que ce soit des constructions industrielles ou des ensembles urbains, qui participent du paysage du canal. Alors pour répondre à la question, qu'est-ce qui est protégé d'abord du canal ?
Il y a les maisons éclusières.
Les maisons éclusières.
Il y a des maisons vers la porte de Paris, je crois, qui sont protégées sur le bord du canal, sur le quai du canal. Non ?
C'est possible.
Il y a celle-là, où elles sont sur une fiche à
Il y en a au niveau de la Briche, donc plutôt
vers la gare de Saint-Denis.
Vers la gare de Saint-Denis.
Donc il y a de nouveau une maison éclusière, il y a les anciennes
Il y a les anciennes écuries, je crois.
Les anciennes écuries, voilà. Donc tout ça, effectivement, dans le cadre de... C'est Aventon-la-Seine, je ne sais plus si c'est Aventon-la-Seine ou Aventon-la-Métropole. Tout ça va être réaménagé.
Mais dans le cadre d'un montant la Seine, l'appel à projet de la ville de Paris.
Oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc ça va être réaménagé. Donc tout ça, effectivement, il va falloir prendre en compte ces prescriptions. Et c'est plus compliqué sur un ensemble.
Niveau 1, quand vous dites protéger à chaque fois, ça veut dire niveau 1.
Là, je ne retrouve pas mes petits.
Non, c'est pas forcément niveau 1.
Autour du canal, par ailleurs, il y a une zone de droit qui est le même et inconstructible.
Alors le canal appartient à la ville de Paris. Le canal, les canaux appartiennent à la ville. Ça, c'est géré par le service des canaux, qui est la ville de Paris.
Il y a une emprise à côté.
Ils ont une emprise de berge, je ne sais plus combien de mètres.
Je crois que c'est 6 mètres.
Qui leur appartient, donc tout ça, c'est à eux. Après, il faut travailler avec la ville de Paris, effectivement, comme partenaire pour l'aménagement. Donc ça ne dépend pas que de nous, quoi. Il faut travailler avec la ville de Paris.
Vous voulez voir la fiche de canal, on va aller un peu la grâce à ce test.
Intervention multi-acteur.
Voilà, non mais ça se passe bien.
Et justement, enfin, c'est pareil, c'est une question qui ne sert à rien parce que vous n'aurez pas la réponse, mais c'est pour l'enregistrer. Non mais vous parlez de réinventons les rives, réinventons la Seine, voilà. Ouais. Comment est-ce que vous êtes associé comment se fait ce travail de renouvellement de la ville
Les projets qui sont sur le territoire de la ville ou de pleine commune, la ville et le territoire de pleine commune sont totalement associés au projet. Ouais.
Et la compatibilité se fait facilement entre l'idée de conserver des éléments patrimoniaux et...
Là, on en est au début des projets.
La boîte à idées...
On en est au début des projets. Il y a des projets là plus sur le quartier de la gare. Apparemment, ça se passe à peu près bien, quoi, sur la compatibilité des projets et des préservations, du site.
Parce que derrière ma question, vous voyez bien qu'il y a tout le discours sur ce qu'on appelle l'urbanisme de projet aujourd'hui, qui inclut que peut-être à terme on aille aussi vers des règlements de PLU qui soient potentiellement un peu allégés, voilà, qui soient plus dans des règles d'objectifs que des règles techniques. Voilà, je ne sais pas comment vous voyez les choses aussi.
Je ne sais pas comment sera, parce que là on ne sera plus sur du nouveau PLU, on sera sur du PLUI. Oui. Donc ils en sont au tout début du lancement de l'élaboration du PLUI, donc je ne sais pas du tout comment ça va être pris en compte. Ça, sur le plan patrimoine et le PLUI, on n'en est pas du tout là. Je ne sais pas.
En termes de calendrier, justement, c'est quoi
Je ne sais plus, ça doit être...
J'ai vu 2019, mais ça me semble
2019, 2020, ça doit être ça à peu près, la fin de l'élaboration du PLUI. 2020, la fin de l'élaboration du PLUI. Donc là, ils en sont au tout départ, ils en sont face au volet, là.
Nous, on a suivi de manière un peu épisodique l'appel à projet Réinventons la Seine sur une propriété départementale le long du canal de l'Ourcq. Donc on est sur un autre OPT qui est cet ensemble, à Bobigny. où il y a un bâtiment qui avait été identifié par nos services et qui a intégré la réflexion du projet. Aujourd'hui, je ne sais pas si où en est le niveau de mise en œuvre sur la bergère. D'accord.
Il y a des projets après, je ne sais pas en fait, non, effectivement, parce qu'ils n'ont pas eu l'accord de la ville de Bobigny,
la ville de Bobigny. PLU, et le dernier appel à projet en date qui est Inventons la métropole du Grand Paris, donc qui cette fois-ci embrasse plus largement les communes périphériques et se focalise plus spécifiquement sur Paris. Là, on a été associé sur certains projets sur la dimension patrimoniale. Je comprends votre interrogation sur l'urbanisme de projet. On comprend qu'effectivement, ça crée une dynamique, ça resserre des calendriers. On ne sait pas si toutes les villes vont être en capacité de pouvoir assurer le suivi de ces projets. Mais néanmoins, les opérateurs sont très, très actifs et poussent derrière pour que ça compte pas, ça sorte.
Mais à titre d'exemple, dans justement Réinventons la métropole, il y avait la piscine
municipale
des années 30 de Saint-Denis qui a été protégée au titre du PLU. Et quand on l'avait étudiée, effectivement, l'intérêt de cette piscine, c'était son intérieur, ces arcs doubleaux qui reprenaient la piscine de la Butte aux Cailles de Gaston Dola, qui lui-même faisait partie du jury au moment où ils ont sélectionné de Louis Bonnier au moment où ils ont sélectionné. Et la façade était déjà, ça n'a jamais été une des grandes caractéristiques de ce bâtiment. La façade est assez dénaturée, la piscine était fermée depuis les années 80, ils avaient construit un nouvel équipement. Et la ville a mis ce projet, donc on l'appelle à projet. Et donc il y a eu le lauréat. Ils ont donc ils ont proposé, donc ils restaurent ils ont complètement respecté l'affiche en fait, moi de ce que j'ai vu. Voilà, on gardait le nom, le titre de la piscine, le reprendre, garder les ouvertures, garder la clôture qui rappelle aussi la ferronnerie qui sont dans les bassins, ils la conservent. L'intérieur évidemment, qui garde pour mettre en valeur ces arcs doubleaux. Voilà, donc ils vont faire un espace, un lieu culturel à l'intérieur.
C'est la Bellevilloise, c'est Vinci et la Bellevilloise qui sont partagés.
Donc voilà, le projet, donc il garde vraiment l'espace intérieur. Et sur la façade, donc il garde le bâtiment d'origine et il surélève partiellement à l'arrière.
Un hôtel, plus un truc étudiant, plus, comment ça s'appelle,
résidence
jeunesse, auberge, type auberge de jeunesse, quoi.
Vaut mieux avec le concert en dessous.
Une maison de retraite, ça fonctionnerait moins.
Ça serait moins. Donc là, on a vraiment un bel exemple d'un bâtiment protégé dont les recommandations ont été intégrées, conservées, et une réponse vraiment qualitative. Et
c'est assez de qualité, hein, ce qu'ils font, c'est quand même assez qualitatif. Ils respectent effectivement la fosse, le bassin, ils reprennent bien toutes ces dimensions. Le bassin, il est bien réfléchi. Il garde le volume du bassin.
Mais complètement, il valorise bien la façade qui aujourd'hui n'était pas. Il lui donne une.
Il resitue bien l'entrée de l'équipement, sera bien l'entrée d'origine.
Ouais. Enfin, voilà. Les ouvertures, les fenêtres en bandeau, ils les mettent. Voilà, c'est un beau. Un bel exemple.
Tout ça à partir d'une protection PLU, simplement, hein, comme toujours. Oui. On est d'accord. Il n'y a pas de. Une inscription MH derrière.
On est au niveau 2 parce que comme la façade avait été déjà très modifiée, on ne pouvait pas exiger à ce moment-là Mais ils l'ont fait en fait, sans même qu'on la demande, elle a été remise quasiment à l'identique.
Ça faisait partie du cahier des charges, hein, c'est
ça. Ouais, mais.
Lors de l'aménagement de l'ensemble de l'opération Grand Stade, peu voire aucun vestige de cette histoire du gaz très structurante pour l'histoire du territoire a disparu et la question se repose aujourd'hui avec le projet de la piscine olympique. Mais le projet de la piscine est arrivé par la suite. Dans le cadre du PLU, le gaz a donné lieu donc à une notice, une importante pour un site industriel, puisqu'on est face à un ensemble qui associe à la fois de la production, des bureaux et à l'époque il y avait encore des logements. Un cas rare en proche couronne d'un ensemble de logements ouvriers associés à une entreprise, mais qui a disparu pour laisser place au campus SFR, qui se trouve de l'autre côté, qui par ailleurs SFR va quitter. Donc sur l'ensemble du gaz à Saint-Denis, on a identifié plusieurs bâtiments. Le premier, là, qui est le long de l'autoroute, qui est une construction de. La période de la reconstruction qui doit être de 52, qui est une construction de Louis Madeleine et qui marque le changement de fonction de ce site gazier qui passe de la production à la recherche. Et c'est l'arrivée, le développement d'EDF, hein, donc c'est plus le gaz de Paris, c'est la nationalisation du gaz et l'arrivée d'EDF sur le site. Je ne vais pas vous faire toute la revue, je vous fais circuler la notice, mais on avait des ensembles
de logement, de l'activité, du laboratoire. Et aujourd'hui, se pose la question du quelle est la place de ces objets identifiés dans le cadre du projet de la piscine. On a certains bâtiments qui pourraient éventuellement s'y intégrer puisqu'ils se trouvent à la périphérie de la parcelle. Les JOP Paris 2024 s'installent sur une emprise qui leur appartient. Si mes souvenirs sont bons, de toute façon, Engie avait des velléités de relocaliser, voilà, de relocaliser leurs activités. On est sur de la recherche. Ça peut éventuellement se faire ailleurs, mais là effectivement on est sur un titre très structurant pour l'histoire du gaz dans la région parisienne et sur le gaz et à Saint-Denis.
Il y avait des gazomètres à Toulouse.
Il y avait des gazomètres, donc ça marquait les paysages et je suis sûr que Patrick Brozek pourrait en parler, où il y a beaucoup de Bretons qui ont été employés au gaz à la fin du 19e, début du 20e. C'était une entreprise qui était pourvoyeur d'emplois. Et donc on est lié, le gaz est lié aussi aux différentes vagues d'immigration dionysienne, voire c'est quoi, il y a l'emprise piscine olympique spécifique, et puis après il y a les aménagements qui seront
autour,
voilà, et qui impactent là aussi des éléments identifiés dans le cadre du PLU. Le bâtiment que vous avez face à vous, la Repmo Machine-Outils, c'est l'ancienne usine Cazeneuve, donc grand fabricant de machines-outils. Sur un objet architectural assez singulier, donc là on est sur la façade un peu front office, derrière les ateliers se déploient, identifiés dans le PLU, protégés au titre du PLU. Donc se pose la question du maintien ou pas de cet ensemble-là. Et puis cet après-midi, on verra peut-être avec la responsable du STAP, quelle est la place de l'ABF dans la discussion, dans le tour de table, sachant qu'on est sur un périmètre MH. Donc, je rappelle, et la pharmacie centrale qui se trouve derrière nous. Ancienne entreprise Meunier, avant qu'ils ne déménagent à Noisiel. Enfin, ils ont commencé à Saint-Denis, Meunier.
Donc c'est un axe majeur commerçant de la ville de Saint-Denis, c'est la rue de la Rêpe. Voilà, une fois qu'on a dit la rue de la Rêpe, on a tout dit. Alors là, l'affiche, l'ensemble, elle reprend effectivement des préconisations, des recommandations sur l'ensemble de la rue. Ce que je vous disais, c'est assez compliqué puisque nous on est à la parcelle, à l'immeuble, souvent de respecter les fiches. Sachant que c'est assez compliqué d'usage dans la fiche telle qu'elles sont rédigées en tout cas. Sachant qu'on s'en sort quand même lorsqu'il y a des ravalements, parce qu'il ne se passe pas grand chose sur la rue de la République, sur les immeubles, hein, il ne va pas y avoir de surélévation, d'extension, tout ça. C'est a priori que des petits travaux de ravalement, des choses comme ça.
Il y en a eu.
Oui, il y a eu, mais il n'y a pas eu récemment de gros travaux sur les immeubles existants sur la rue de la République. Il y en a eu un au bout de la rue de la République qui était dans un tel état que, bon, je sais pas, il devait être, le bâtiment était d'un niveau pas très élevé. Mais la difficulté sur les fiches d'ensemble, c'est effectivement de travailler à la parcelle, quoi. Alors, on arrive à s'en sortir parce que c'est en périmètre protégé ABF et qu'on suit avant tout les recommandations de Madame l'architecte des bâtiments de France. Et que c'est surtout là-dessus qu'on établit notre arrêté. Voilà. Que dire de plus, les devantures commerciales, parce que sur la rue de la République, tous les rez-de-chaussée sont des rez-de-chaussée commerciaux. Et là, par contre, effectivement, il y a des préconisations et des recommandations sur les rez-de-chaussée commerciaux. Si un jour vous passez rue de la République, vous verrez que c'est pas très harmonieux, on peut dire ça comme ça, pas très qualitatif. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu un gros travail de fait sur les enseignes commerciales. On a récupéré, nous, à l'urbanisme, au printemps dernier, la gestion des enseignes commerciales. Donc on essaye d'être un peu plus vigilant à ce qui se fait. En tout cas, que ça soit réglementaire, parce que ça ne l'est pas toujours. Hein. C'est un peu du grand n'importe quoi, bien souvent. Et on est assez soucieux, effectivement, de la qualité de ce qui peut être fait en façade commerciale. Voilà. Donc on essaye un petit peu de nettoyer, de redonner un bon aspect à ces trucs par le biais aussi de l'enseigne commerciale et de la façade commerciale. C'est du commerce qui est assez paupérisé quand même. Hein. C'est pas, on a beaucoup de mal, on a quasiment plus d'enseigne. Quoi. On a...
Oui, c'est du commerce de bouche.
Beaucoup de commerce de fringues chinoises. Hein. Donc ça, il y en a toute la rue. Donc c'est vrai que c'est pas du grand commerce de qualité, donc avec des enseignes assez pauvres, avec ou très 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 fillardes, enfin des choses assez pas très en tout cas qui ne mettent pas en valeur les bâtiments, qui ne contribuent pas à la mise en valeur des bâtiments.
que du coup c'est compliqué finalement par principe d'intervenir à la parcelle parce que vous attendez les déclarations de travaux, les demandes de permis, alors que vous êtes dans un ensemble séquentiel. Mais bon, néanmoins.
On reprend les recommandations. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est de jouer. Entre la préconisation et la recommandation, la préconisation, qu'est-ce qu'on prend, comment on articule tout ça, quoi. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Le niveau de protection, la plupart des immeubles sont avec des fortes protections et il ne s'y passe pas grand-chose en matière de... On n'a pas eu de gros soucis, de grosses demandes. Il ne se passe pas grand-chose sur la rue de la République. Bon, il y a des constructions d'immeubles neufs parce qu'il y avait une dent creuse. Il y a eu une réhabilitation d'un immeuble. Mais le gros du travail sur la rue de la République, c'est quand même les façades commerciales, les rez-de-chaussée. Quoi. L'unière commerciale, c'est ce qu'on voit en premier quand on arrive rue de la République. Quoi. C'est l'unière commerciale. Et on essaye effectivement de faire en sorte maintenant que les nouvelles enseignes soient de qualité. En tout cas, qu'on arrive à avoir des façades et rez-de-chaussée à peu près qualitatifs pour redonner effectivement un aspect à l'immeuble. Quoi. Parce que vous aviez des enseignes qui montent, vous voyez, qui montent largement dans les étages. Enfin, on a un peu...
Bien sûr.
Voilà. Donc le compliqué. Travail, il est plus sur la façade commerciale et sur l'enseigne.
Il y a une politique de terrain qui est menée, une politique coercitive un peu de...
Alors on reprend là depuis, je vous disais avant, les enseignes étaient gérées par un autre service. Nous, ouais. On les a repris à l'urbanisme depuis peu de temps, donc on essaye de se mettre en ordre de bataille déjà, hein, parce que c'est lourd, il y a beaucoup de commerce à Saint-Denis, et on essaye de se mettre un peu en ordre de bataille pour effectivement d'être un peu plus rigoureux, et voire à plus tard coercitif sur le linéaire commercial. Pour l'instant, on balbutie un peu. Il faut que tout ça se mette en place et c'est compliqué. C'est compliqué parce que...
Oui, et puis il y a un moment où vous ne pouvez pas prendre le risque aussi de vider les commerces.
Il ne faut pas non plus.
Enfin, il faut trouver le... Voilà, c'est un problème qui est quand même important dans beaucoup de centres-villes. Que de garder du commerce vivant.
Le commerce vivant. Là, c'est vivant. C'est vivant, peu qualitatif, mais c'est vivant.
Et oui.
Donc si on fait fuir tout le monde, après...
Oui. Et une question, mais ce n'est pas forcément par rapport à la rue de la République, mais c'est la question aussi de la gestion dans un ensemble séquentiel. Vous avez dit qu'il peut y avoir des dents creuses. Donc est-ce que sur ces dents creuses, du coup, vous posez aussi des exigences de cohérence donc, voilà, enfin comment... Parce que... Bon là vous êtes dans un périmètre monument historique, donc il y a aussi un contrôle.
Il y a bien sûr des exigences, mais ça c'est travaillé très en amont des projets, enfin au début du projet, effectivement sur des exigences architecturales, enfin je veux dire, il y a des gens qui regardent ça de près, effectivement ça s'insère de façon correcte dans le linéaire. Après effectivement c'est un peu ce que... Est-ce qu'on fait du faux vieux ou est-ce qu'on fait du tout neuf? On serait plutôt du tout neuf que du faux vieux. Voilà.
D'accord. Non, mais c'est... Je me doute bien que vous posez des exigences, mais c'est déjà pas facile parfois de négocier le respect de l'existant parce qu'on lui donne un intérêt patrimonial. Mais donc imposer à un constructeur, quel qu'il soit, un particulier ou un promoteur, d'arriver...
Dans le PLU, on a un article qui... un certain nombre de choses lorsqu'on est mitoyen d'une parcelle repérée dans une fiche. Donc avec des... Il faudrait que je ressorte les articles du PLU, je pourrais tout à l'heure rechercher au bureau pour vous montrer ce qui est écrit. C'est sur les hauteurs, sur un certain nombre de prescriptions pour effectivement, que ce soit quand on est sur de la maison individuelle, ne pas étouffer la maison individuelle. Enfin, on a dans le PLU ce type d'article. Il faut protéger ce qui est contigu à la parcelle protégée.
J'avais aussi une petite question sur le vocabulaire, parce que vous parlez souvent de recommandations et de préconisations.
Dans les fiches, ouais, on en parlera peut-être cet après-midi.
Plus que de prescriptions.
Il y a
de
prescriptions et, prescription et recommandations.
D'accord.
Il y a prescriptions et recommandations, donc voilà, c'est comment on jongle avec les deux.
Parce que le mot préconiser, je ne savais pas si c'était
une
formule intermédiaire.
Prescriptions et recommandations. D'accord. Donc après, c'est comment on s'y retrouve dans effectivement, ce qui est de l'ordre de la recommandation et ce qui est de l'ordre de la prescription. Et...
Oui, justement, mais...
Oui, parce que j'en parlais pas voilà. Les prescriptions, recommandations.
Parce qu'évidemment, là, je regardais par exemple l'affiche sur le canal. Et dans les prescriptions, il y a une case prescription. Il n'y en a pas sur toutes les fiches, d'après ce que j'ai vu. Mais parfois il y a une case de prescription, mais évidemment on retrouve une écriture qui joue sur le conditionnel, qui utilise le mot recommandé, voilà, bon, hein,
comment
c'est parfois des prescriptions
des recommandations, prescrites, enfin, c'est après, il faut... Ah, oui. Et là, sur le centre-ville, sur la rue de la République, c'est surtout sur ce qui se passe. Ah, il y a du ravalement, on peut avoir des demandes d'ITE, d'isolation thermique extérieure, ce qui est à peu près systématiquement refusé. Ce qui est systématiquement refusé, mais c'est pas... Là, par exemple, on va avoir certainement cet immeuble à qui mûrit, certainement un jour disparaître. Hein. Donc il y aura de nouvelles constructions, très certainement, ce sera de la reconstruction. On est sur un centre-ville qui est... Il y a beaucoup d'habitats dégradés. On a une grosse problématique sur Saint-Denis d'habitats dégradés, mais très dégradés. On a un îlot là derrière, juste derrière cet îlot-là, on a cet immeuble-là, on en fait partie. On a une opération, on en est au pas, on est sur un PNR CAD, donc programme de requalification des quartiers anciens dégradés. Il y a une grosse action qui est menée sur le centre-ville de Saint-Denis sur l'habitat dégradé. Donc il va y avoir et il y aura encore des opérations de démolition de construction sur le centre-ville de Saint-Denis. Ça ne se voit pas trop de là, mais si vous avez le temps un jour, passez par derrière dans les petits trucs, vous verrez qu'il y a beaucoup d'habitats dégradés. Je travaille depuis de très très nombreuses années sur la question.
Merci. À partir de 82 jusqu'en 92, une opération qui donne à voir ce qui se fait de mieux dans l'architecture du logement social, notamment avec René Gailloustet, avec Jean et Maria de Roche, Roland Simounet, Guy Nézot qui assure la coordination de l'ensemble, Francis Gossel, et donc quelque chose qui est très cohérent, qui a une qualité architecturale certaine. Sont ménagées systématiquement des vues sur la basilique. Donc c'est vraiment un projet global. Le parvis aussi a été repensé, tout comme le jardin, avec Riboulet pour maître d'œuvre. Donc on a vraiment quelque chose de. Un moment, en fait, dans la réflexion sur création architecturale et patrimoine historique évident, tel que la basilique. Et c'est un moment qui, effectivement, rompt avec ce qui s'est fait précédemment constitue une proposition très, très années 80, mais loin d'être inintéressante. Donc nous, on l'avait proposé, bien évidemment, à la protection au PLU. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait déjà le PNRU 2 qui était envisagé sur une partie non négligeable des sites de logements sociaux. Hein. Et donc, la trace persiste... dans le cahier de recommandations qui est malgré tout associé à l'ensemble du PLU, mais effectivement les fiches îlot par îlot ne sont pas protégées en tant que telles, mais ça donne à voir justement les intentions et les réalisations qui sont quand même particulièrement intéressantes.
Le cahier de recommandation, il est dans le dossier du PLU.
Il est annexé
au PLU, il n'est pas hors dossier, disponible en mairie.
C'est parti du PLU.
C'est ce qui fait effectivement l'intérêt de voir que si les fiches de la ZAC Basilique ne sont plus présentes, les recommandations, elles, sont toujours accessibles. Et voilà, ça peut constituer malgré tout un outil de sensibilisation. Et puis bon, moi, j'emmène très régulièrement du monde ici et je continuerai autant de temps que je pourrai. Voilà, typiquement, ce genre de... Donc, bien identifier les différentes parties, les vues, justement.
Sur la Rosace, il y a des magnifiques vues.
Voilà, il y a vraiment une logique qui a été appliquée avec méthode et sérieux, et le tout dans un accord tout à fait vertueux.
Ça marche si l'ABF joue le jeu.
Tout à fait.
Ça entre aussi dans la logique du projet urbain. Et
Là, on voit les vues, les perspectives. Après, il y a des aléas, hein. C'est-à-dire que le jardin tel que l'a pensé Riboulet, bah, finalement, il ne s'est pas fait parce qu'il y a eu changement au niveau du gouvernement. Hein, la cohabitation 86, tout d'un coup, il y a un petit raidissement. Finalement, ce n'est pas comme ça que c'était prévu. Il y a différentes modifications qu'on peut identifier, mais qui sont en soi intéressantes parce que justement, elles donnent à voir les aléas, surtout, les tensions qu'il peut y avoir sur le sujet. Et comment ce qui a pu sembler être gagné à un moment est au contraire perdu, au moins temporairement. De fait, l'aménagement là d'ailleurs du parvis a été revu à plusieurs reprises ces 20 dernières années, hein, avec une piétonnisation qui n'était pas du tout prévue initialement. Enfin voilà, tout un processus qui est quand même très intéressant à comprendre et éventuellement à protéger.
Ouais. Je sais pas comment vous mesurez aussi l'appropriation par les habitants, par exemple, d'une intervention architecturale qui est contemporaine au moment où elle se fait, mais qui n'est pas toujours comprise. En plus, avec le recul, il y a des bâtiments, je ne dis pas que c'est le cas, hein, je suis pas en train de porter un jugement, mais qui parfois vieillissent mal malgré tout. Surtout quand on n'a pas de culture architecturale, ce qui est le cas de la plupart des gens, comme moi. Et parfois, du coup, c'est pas facile d'aller négocier sur une demande de travaux quelque chose de qualitatif quand on se voit renvoyer. Bah, vous avez vu...
Non, on
ne
renvoie pas ça.
Voilà, non, mais ça existe, hein, évidemment. Je dis pas que c'est le cas ici, mais...
En plus, j'ai eu ce qu'a fait mon voisin que ce que a fait la collectivité.
Oui, d'accord. Oui, donc le précédent, c'est plutôt celui du voisin. C'est pas forcément la collectivité exemplaire, par exemple.
On n'a pas de retour particulier sur tout ce qu'il a pu faire en aménagement.
D'accord.
On n'a pas. Enfin, on les entend pas, en tout cas, mais c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup d'associations non plus très
actives sur le sujet.
Sur
ouais.
Sujet.
Ouais. Contrairement à d'autres villes.
On n'a pas beaucoup de retours. Hein.
Merci.